Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce dernier entretien de Par les temps qui courent pour cette semaine. Tous les soirs, une conversation qui dure une heure. Et ce soir, c'est avec Sébastien Lifshitz.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux, avec Sébastien Lifshitz.
Je n'aime pas ce qui abîme la vie, parce que c'est dur de donner la vie, c'est dur de l'entretenir. Ce sont les mots de Thérèse Claire, militante de la révolution sexuelle, de la révolution féministe, à la toute fin de sa vie. Et vous avez filmé cette femme, à sa demande, dans les derniers jours de son existence. Et il y a dans votre regard, donc dans votre caméra, une manière de prendre soin de son vivant, de tout le vivant qui reste, dans ses bras décharnés, dans sa voix, dans son esprit resté vif, dans son art imperturbable de faire monter un chignon. Le film s'appelle « Les vies de Thérèse » et on pourra le voir au Centre Pompidou à Paris, avec plein d'autres films à l'occasion de la rétrospective consacrée à votre travail. Le soin des vivants et le soin des morts, on peut aussi le percevoir dans l'inventaire infini. Cette fois, c'est une exposition de photos, vernaculaire, amateur et quotidienne, qui organise des centaines d'images trouvées, qu'on imagine aimées, selon différents thèmes, dont l'erreur et le sommeil. Le tout est donc visible au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 11 novembre. Bonsoir à vous, Sébastien Lifshitz.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu. Je vais le dire, et à regret, mais avec beaucoup de désir, qu'il y a aussi un film qui va sortir le 29 avril 2020, que je n'ai pas vu, qui s'appelle Adolescente. Peut-être qu'il en sera un peu question. On commence avec Claire Denis.
C'est un support modeste. Il y a quelque chose qui reste assez banal dans la fabrication d'un film. Bon, l'expérience n'est pas banale, mais le résultat, il l'est quand même, tu vois. Et c'est ce qui est, cette espèce d'inquiétude, ce retour à l'inquiétude en permanence, qui fait que ça vibre dans un film, que quelque chose vibre pour un spectateur. Moi, je ne peux pas parler de mes films, ça serait épouvantable, mais je sais que l'année dernière, quand j'ai vu le film de Bergman, Sarah Band, je l'ai vu un dimanche après-midi, et il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge dans la salle, c'était pas bondé de jeunes gens, quoi, tu vois. Et on est sortis. J'ai senti vraiment une espèce de solidarité de tous les spectateurs qui ont été déversés devant l'Arlequin, là, ce dimanche après-midi. Et tu sais, comme presque dans certaines sorties d'église, je ne savais pas si tout le monde n'allait pas s'étreindre pour se dire au revoir, parce que... Mais parce que là, l'inquiétude d'être humain, elle est clairement exprimée, sans embâge, sans détour. La condition d'être humain, elle est... Jusqu'à la fin, c'est pas parce qu'on est un vieux metteur en scène auréolé de gloire qu'on est inquiet.
On reste inquiet. C'est Claire Denis qui le dit, on est en 2005. Elle discute avec Jean-Luc Nancy pour les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture. Je dis qu'on commence avec Claire Denis parce qu'il y a peut-être pas mal de choses qui commencent pour vous, en tout cas qui se construisent, qui s'établissent en dialogue avec elle. Qu'est-ce qui commence pour vous avec Claire Denis?
Je pense que j'ai... reconnu une part de moi probablement dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une marginalité que Claire a filmé dans beaucoup de ses films, un monde à part dont je me sentais proche. Alors chez Claire, ça s'est traduit beaucoup par des hommes noirs, souvent sans papier ou qui errent. Des corps fragiles, des gens qui cherchent leur place d'une certaine manière. Et c'est vrai que l'analogie peut paraître étrange, mais je viens d'une famille où être cinéaste ne va pas du tout de soi. Et Il n'y a pas du tout de culture artistique là d'où je viens. Et le fait d'avoir choisi ce chemin, d'avoir été vers l'art, vers la photographie, vers le cinéma, n'était pas du tout gagné. Et puis l'homosexualité est venue rajouter une couche là-dessus et a fabriqué aussi une vie un peu différente. Surtout que quand on grandit en étant homosexuel, ça veut dire aussi grandir avec un secret.
Pour certains ou certaines en tout cas.
Beaucoup. En tout cas moi, beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer, quand on est enfant, on sait souvent très jeune où est notre désir et ce qui pulse en nous. Et cette chose-là, on ne peut pas en parler. Parce qu'on a peur tout d'un coup du jugement, on a peur de la moquerie, du rejet. Et donc on grandit longtemps avec quelque chose enfoui en soi qui nous rend différents, sur lequel on s'interroge. Pourquoi soi? Pourquoi cette chose-là est mal regardée, peut-être mal comprise, parfois méprisée, et vous donne le sentiment d'être à part en fait. Et je pense que j'ai dû retrouver dans le cinéma de Claire quelque chose sur ces gens à part, qui sont comme à côté, mais qui vivent malgré tout et auxquels elle prête un regard le temps d'un film. Et puis après, je l'ai rencontré et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans les échanges qu'on avait, c'est que Claire est pas du tout quelqu'un qui veut être dans la maîtrise, en fait. Elle est pas du tout donneuse de leçons. Elle n'arrive pas avec un savoir clé en main, elle ne cherche pas le pouvoir, si vous voulez, à travers sa position de cinéaste. Alors qu'il y a quand même un peu une tradition en France, je dirais, de personnalités comme ça un peu autoritaires, les maîtres, les gens qui viennent comme ça nous donner des leçons de cinéma avec lequel moi j'ai beaucoup de mal. J'estime qu'être artiste, c'est quelque chose d'assez fragile et qui sont généralement, les films sont des tentatives en fait, et souvent des échecs. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Et de là en tirer une position au-dessus, si vous voulez, m'interroge.
Elle parle d'un perpétuel retour à l'inquiétude. Qu'on fait un film, comme vous dites, Sébastien Lifshitz, pour essayer quelque chose, peut-être pour le rater. Et puis le temps de la fabrication, parfois l'inquiétude se lève et en réalité on y revient. Mais elle parle aussi de la solidarité des spectateurs à la sortie de l'Arlequin, qui est un cinéma parisien. Et elle dit parfois je les regarde et je me dis, comme si ça pouvait avoir lieu aussi à la sortie de la messe, qu'on va s'embrasser.
Non mais c'est sûr qu'il y a une communion, la salle de cinéma est vraiment un lieu de communion, mais faire un film, on est quand même souvent seul, quand même. Vous n'avez pas les spectateurs avec vous au moment où vous écrivez, au moment où vous tournez, et vous luttez un peu contre tout, avec l'argent, le temps, les demandes des uns et des autres, donc c'est une certaine épreuve quand même de faire un film. Et moi, dans mon parcours, ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que j'ai pas fait d'école de cinéma, donc j'arrive d'autant plus, je dirais, avec ce sentiment d'incapacité, de ne pas savoir. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris à faire des films en faisant, et ça a été un peu mon école du cinéma. Chaque film a été un moment, un lieu d'apprentissage, et où j'étais d'autant plus fragile parce que je n'avais encore rien expérimenté. Quand vous avez fait une école, quand même. Pendant au moins 4 ans, on vous laisse d'une certaine façon essayer des choses et vous confronter à d'abord qu'est-ce que c'est que le travail ensemble, en collectif, et qu'est-ce que c'est que d'écrire un scénario. Toutes ces choses, moi, je les connaissais absolument pas. Donc, je suis arrivé un peu comme un intrus, quoi, vraiment comme quelqu'un qui n'a rien à faire là. Et pourtant, j'ai voulu y faire quelque chose.
Mais c'est bien qu'à un endroit, ça a été votre force, d'arriver comme un intrus qui ne savait pas ou qui pensait ne pas savoir. Il y a parfois une force là-dedans.
Je sais pas. Moi, je le voyais pas comme ça. Je pensais véritablement que chaque film allait être le dernier. Je me souviens, par exemple, quand j'ai tourné Les Corps Ouverts, après 2 jours de tournage, j'ai appelé Stéphane Bouquet, mon co-scénariste et ami, et je lui ai dit, c'est la catastrophe, je suis en train de faire la plus grosse daube du siècle. J'étais catastrophé en fait du tournage parce que on avait peu d'argent et mon premier assistant avait mis pratiquement 8 séquences par jour à tourner, et je savais que ça allait être un carnage, c'est-à-dire que peut-être que miraculeusement certaines séquences allaient être réussies, mais ça voulait dire aussi que d'autres allaient être totalement bazardées, faute de temps. Et mon premier assistant me répondait, bah oui, mais de toute façon, on a le décor qu'une journée, donc c'est ça ou rien, quoi. Donc j'avais pas le choix. Donc j'y suis allé, on a tourné, et effectivement, quand j'ai regardé les rushs, des séquences étaient totalement nulles, je dirais, vraiment ont été comme impossible. Et puis, à l'intérieur de ce marasme, il y avait des perles. Il y avait tout d'un coup des moments véritablement de grâce qui avaient pu avoir lieu, qui étaient vraiment des petits miracles. Et le film, je dirais, s'est monté presque par défaut. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé uniquement de se concentrer sur ce qui avait été réussi et de construire à partir de ces fragments un récit. Alors il était incomplet, il était bancal, avec, je dirais, un manque d'informations énorme. Et bizarrement, on a essayé de trouver une forme de chorégraphie dans tous ces fragments. Et ça a fini par raconter quelque chose. Et je dirais même que les manques ont fini même par inventer une place pour le spectateur, un espace de projection, qui viendrait comme combler ce qui n'est pas dit. Et ça a rendu le film peut-être beaucoup plus intéressant que ce que j'avais pu écrire. Mais vous voyez, tout ça s'est fait vraiment par, oui, par défaut, si vous voulez. Ce sont les maladresses qui ont permis finalement que le film existe tel qu'il est aujourd'hui.
Vous disiez, Sébastien Lifshitz, que c'était pas une évidence d'être cinéaste, que c'était pas gagné d'être cinéaste de là où vous venez, pour vous citer. Aujourd'hui que vous avez quelques films à votre actif, que vous exposez des photographies, que c'est aussi une manière de faire un film, en tout cas un montage, cette manière de montrer les photographies, vous diriez que c'est quoi être cinéaste ? C'était quoi ce truc pas gagné il y a quelques années ?
C'est une question difficile. Qu'est-ce que c'est qu'être cinéaste? Je sais même pas si je suis pleinement cinéaste. Et, j'ai toujours l'impression que je suis, que je grandis avec le cinéma, si vous voulez, mais peut-être que, à la toute fin, je m'autoriserai peut-être à utiliser ce mot, mais je sais pas, chaque film est pour moi une, vraiment une tentative, une aventure, et je suis jamais sûr d'arriver au bout, quoi. Quand Thérèse me demande de venir la filmer alors qu'elle est en train de mourir.
Donc Thérèse Claire, la femme dont je parle en introduction.
Ouais. J'ai pas du tout envie de faire ce film. Je le fais parce qu'elle me le demande. Et je me dis à chaque seconde, mais qu'est-ce que je vais filmer? Parce qu'il y a quand même une forme d'agonie, dans un tel moment. Et est-ce que c'est supportable pour elle, pour moi? Pour les spectateurs ensuite qui regarderont le film, est-ce qu'on a envie de voir ça? Est-ce qu'il faut le raconter? Je comprenais bien pourquoi Thérèse voulait faire ce film. Que c'était inventer un dernier geste politique, c'était militer sur la représentation de la mort, en tout cas de la mort en marche, au travail. Et qu'est-ce que c'était que d'apprendre à mourir? Et je trouvais évidemment l'intention magnifique. Après, il faut la vivre. Et il faut la filmer à la juste distance, être avec, accompagné. Pour moi, être cinéaste, c'est beaucoup accompagné, je pense. Mmh. C'est être avec les autres, essayer de les raconter de la manière la plus fidèle possible, la plus respectueuse. C'est vraiment la part documentaire à chaque fois sur un individu, un parcours de vie. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. C'est les rencontres que les films m'ont permis, plus que les films eux-mêmes. Et
Et c'est un accompagnement qui peut parfois se faire de très proche de la vie de Thérèse. Donc Thérèse Claire, je le disais en introduction, hein, militante, féministe de la révolution sexuelle, qui a créé la maison des Baba Yaga à Montreuil, entre autres mille autres choses. Vous êtes penchée sur elle, c'est pour ça que je parlais du soin. C'est que votre caméra, mais presque votre visage, votre parole, votre questionnement est penché sur elle, pour dans un premier temps interroger la demande de cette femme qui demande à être filmée. Et du coup, moi je ne l'ai pas vue adolescente, mais vous suivez deux jeunes filles comme ça pendant cinq ans, de leurs 13 à leurs 18 ans. Et là, la demande, elle était vôtre. Comment ça s'est négocié?
À la fois, évidemment, il y a une demande de ma part qui est de faire un film sur deux adolescentes. Enfin, au départ, d'ailleurs, c'était même pas deux adolescentes. Je cherchais un adolescent, je cherchais un garçon, en pensant que, étant moi-même un garçon, ça serait plus simple de filmer l'intimité de quelqu'un de mon propre sexe. Et qu'une fille, peut-être, serait moins, je dirais, intéressée ou aurait du mal, aurait une forme de pudeur à laisser rentrer comme ça le regard d'un homme sur elle. Et le casting, finalement, m'a complètement contredit. En fait, beaucoup plus de filles sont venues. Et puis, les proviseurs de Brive-la-Gaillarde, où j'ai tourné le film, m'ont intimement convaincu qu'il fallait beaucoup plus que je m'intéresse à des filles qu'à des garçons, parce qu'ils avaient observé, eux, de leur côté, qu'une fille, aujourd'hui, est très différente de ce qu'elle pouvait être, en fait, il y a 20 ans.
Et pas les garçons?
Non, ils avaient le sentiment que les garçons, finalement, un garçon d'il y a 20 ans et un garçon d'aujourd'hui restaient sensiblement la même chose.
Oh, portons le message que c'est pas vrai.
Et qu'ils avaient le sentiment que les filles avaient véritablement conquis du pouvoir, une autorité, une maturité, que peut-être que tout ce travail, finalement, du féminisme, de l'affirmation des femmes, de l'égalité des droits, petit à petit, finissait quand même par porter ses fruits et que les filles quand même se laissaient globalement beaucoup moins faire et qui trouvaient que c'était intéressant en tout cas de les regarder et de raconter ça, de prendre en compte cette évolution. Donc du coup, on a ouvert le casting aux deux sexes et effectivement, Emma et Anaïs ont été deux ados qui m'ont particulièrement intéressé. Elles sont extrêmement différentes, quasi opposées. Parce qu'elles viennent d'un milieu social très différent. L'une vient de la moyenne bourgeoisie provinciale et l'autre, on pourrait dire, du prolétariat. Il y en a une qui est fine, presque toute maigre et qui dit pas un mot, assez mélancolique. L'autre, un peu ronde, qui parle tout le temps, qui a des idées sur tout. Mais elles avaient toutes les deux en commun d'avoir un désir d'être actrice, je pense. Elles avaient un désir d'être filmées, d'être regardées. Je sentais, comme d'ailleurs beaucoup d'adolescentes, il y a un fantasme un petit peu de midinette, comme ça, de vouloir un petit peu faire sa starlette devant une caméra. Parce que quand même, accepter l'aventure d'un documentaire, c'est aussi accepter d'être filmée, d'être racontée, d'être représentée. Et je pense que moi, je m'interroge toujours sur les raisons qui font que des gens acceptent d'être filmés. Ça va pas de soi, quand même.
Ou demandent, parce que vous vous interrogez aussi quand Thérèse Claire vous demande.
Oui. Thérèse, j'ai compris, puisque c'était vraiment la question de ce fameux geste politique qu'elle voulait inventer et militer vraiment jusqu'au bout. Sur Emma Anaïs, je pense qu'il y avait ce désir premier. D'abord, en province, souvent, on peut s'ennuyer. L'adolescence, c'est un âge où on a envie, voilà, de s'amuser, d'inventer des choses. Et faire un film, pour elle, c'était quelque chose de très excitant. Et puis voilà, il y avait ce fantasme, évidemment, de faire l'actrice, quoi. Et donc, très vite, en fait, s'est mis en place un jeu un petit peu entre nous. C'est-à-dire qu'on arrivait avec les caméras, elle me faisait un petit peu un show. Ça durait une heure, deux heures. Je laissais faire, je disais rien en fait. Et puis au bout d'un moment, ça l'est fatiguée en fait. Elle s'épuisait elle-même, je dirais, de jouer à l'actrice. Et puis très vite, le naturel revenait évidemment. Et puis là, je dirais, le film pouvait commencer. Parce que évidemment, la question était de les filmer au plus près de ce qu'elles étaient dans leur quotidien, avec leur famille, leurs amis, l'école, etc. Et je pense que c'était ça le contrat. C'était il y a à la fois mon désir à moi de raconter un âge où on est en pleine construction et où on se pose tant de questions. Et On est un peu comme ça, comme une sorte de vase un peu vide et qui se remplit un peu de tout, des autres. Et on est comme ballotté par les injonctions qu'on reçoit de partout, de l'école, de sa famille, des amis. Qui es-tu? Que veux-tu devenir? Quels sont tes talents? Et on n'a pas de réponse. C'est vraiment quand... Souvent, les ados sont assez paumés quand même face à ces questions si profondes, en fait, et si importantes. Et je trouve assez bouleversant de les filmer justement dans cet âge où ils se construisent et où ils sont assez perdus quand même. Mais où il y a évidemment des moments aussi très drôles, parce qu'ils sont capables de tout, d'insolence comme de grossièreté, de poésie aussi. C'est une sorte de tragicomédie permanente. Voilà, j'ai eu un plaisir immense en fait à les filmer pendant 5 ans.
Alors je ne sais pas à quel point ces jeunes femmes se racontent directement. En revanche, cette dimension-là, de se raconter soi-même, de porter une parole sur sa vie, sur son existence, sur d'éventuels combats politiques, mais aussi sur des rencontres amoureuses, est une dimension importante dans le cinéma que vous faites, Sébastien Lipschitz. Je voudrais qu'on écoute un petit extrait des Invisibles.
On s'est rencontrés dans un rétroviseur. J'allais au pressing porter mon petit linge quand j'étais à Manosque. Et un camion m'a doublé dans la rue. J'ai regardé et dans le rétroviseur, j'ai vu des yeux. Arrivé au pressing, je l'ai revu. Donc il m'a abordé. Il m'a dit « De quel signe du zodiaque êtes-vous » Je lui ai dit « Du cancer ». Et il m'a dit, ah, il faut trouver l'amour. Et je lui ai répondu, voilà, je crois que je l'ai trouvé.
Sculpture par les temps qui courent, Marie Richeux avec Sébastien Lipschitz.
Du temps, beaucoup de temps, quelque chose qui, comme ça, s'assoit, grâce à la cantate de Bach, Sébastien Lifshitz. C'est juste avant, c'était un extrait des Invisibles, parce que c'est probablement ce qui m'a marqué le plus dans ce film-là. L'idée que ces hommes et ces femmes parlent après que beaucoup de temps a passé. Vraiment, c'est très frappant la manière dont ils disent la durée de plein de choses. La durée de moments difficiles, mais aussi la durée de leur histoire d'amour, quand il s'agit d'histoire d'amour, la durée de leur désir, lorsqu'il s'agit d'un désir qu'ils n'ont jamais lâché, la durée de, je sais pas, d'une ferme que deux femmes tiennent à bout de bras comme ça depuis des années et des années, comme si finalement, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être invisible, ces gens ont peut-être été invisibles, mais comme ils ont vécu.
C'est des vies absolument magnifiques qui d'ailleurs m'ont beaucoup apporté. C'est des témoignages qui m'ont vraiment transformé, qui ont été des leçons de vie pour moi. Je me souviens quand j'ai commencé en fait à avoir eu l'idée des Invisibles, je me posais la question de qu'est-ce que c'était qu'être homosexuel et vieux. J'avais aucune représentation, je suis moi-même homosexuel, je me disais mais c'est quoi un vieux PD en fait ? Parce qu'en fait on les voit jamais dans les médias, on les voit jamais dans la rue. Bon, après, les gens portent pas un écriteau, je suis un vieux PD, je suis une vieille lesbienne, sur eux. Mais je me posais la question de qu'est-ce que ça allait être de vieillir en étant un homo. Et j'avais besoin d'aller à la rencontre de gens qui avaient vécu toute une vie peut-être dans ces amours-là. Et puis, il y avait des questions que je me posais aussi sur l'homosexualité tout court, c'est-à-dire son histoire telle qu'elle nous a souvent été transmise, c'est-à-dire une histoire très souvent victimaire, très dure, parfois tragique. Et les photos que je trouvais au puce, parce que je collectionne beaucoup de photographies vernaculaires, photographies amateurs, étaient des photographies certes rares, mais elles montraient une homosexualité souvent joyeuse, assez épanouie, visible donc, et elle venait comme contredire cette histoire officielle très dure en fait. Et donc je me suis dit, mais est-ce que dans le fond, des homosexuels n'ont-ils pas réussi à trouver un chemin, une manière d'affirmer ce qu'ils étaient, que ce soit d'abord vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leur monde, du travail ou de la société en général, même si c'était probablement avec une certaine discrétion, mais quand même à vivre et à assumer leurs désirs. Et comme s'ils avaient réussi à négocier quelque chose avec eux et ce qui les entoure, et pour accomplir leur vie. Mais j'étais pas sûr, évidemment, j'imagine aussi qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui avaient probablement été comme ensevelies par la morale, les valeurs de leur époque, qui évidemment condamnaient ce qu'ils étaient. Voilà, et donc du coup, j'ai voulu comme un petit peu sonder ces questions et en allant à la recherche donc de témoins qui auraient pu me répondre sur ce qu'il en a été pour eux. Qu'est-ce que ça avait été d'aimer quelqu'un de son propre sexe ? Et j'ai du coup rencontré à peu près une centaine de témoins. Et j'ai eu comme ça des témoignages incroyables. Mais tous n'étaient pas capables, en fait, de pouvoir parler devant une caméra. C'est-à-dire que dans l'intimité, comme ça, dans un café, je sentais que leurs paroles étaient déjà fragiles, même si les histoires étaient saisissantes. Et ce qu'il fallait pour le film, c'était vraiment trouver des gens qui soient à la fois des conteurs, des gens qui aient une certaine distance, en fait, avec leur vie, qui avaient déjà réfléchi, finalement, à leur parcours, à ce qu'ils avaient accompli, et pouvaient le restituer devant une caméra pour que ça soit partageable, en fait. Tout le monde n'est pas capable de se raconter, tout le monde n'est pas capable d'avoir une réflexion sur ce qu'il a traversé.
Et on sent que c'est une parole à la recherche de laquelle vous vous mettez de temps en temps, Sébastien Lifshitz, que ce soit pour les Invisibles, que ce soit pour Les Vies de Thérèse, dans l'économie de parole qu'elle a sienne à la fin de sa vie, que ce soit aussi pour Bambi, l'histoire d'une personne trans qui vraiment au départ assise sur une chaise comme ça, mais déroule un récit de vie. Et c'est aussi la puissance là, évidemment ça a une valeur politique dans le cas de vies qui ont volontairement été tues, par le collectif, mais c'est aussi une valeur en tant que telle, c'est-à-dire la puissance de ce que c'est, quelle que soit notre sexualité, notre genre, notre vécu, que d'être en mesure de dérouler sa vie. C'est très marquant ça aussi dans les films que vous faites.
Mais c'est-à-dire que je cherche des gens qui sont en capacité de se mettre en récit, comme vous dites. C'est-à-dire qu'il y a cette... ils ont cette possibilité d'être des conteurs. Bambi est quelqu'un qui, avant de faire le film, a écrit son autobiographie. Elle l'a même presque séquencée, on pourrait dire. Donc évidemment, ça a été d'une aide immense au moment où on tournait, pour qu'elle puisse formuler comme ça les moments marquants de sa vie. Et en même temps, mon rôle était aussi de sortir de cette parole trop contrôlée et d'essayer justement de déstabiliser un petit peu Bambi pour essayer justement de produire une parole inattendue, faire jaillir peut-être des émotions, des choses, je dirais, plus... moins réfléchies, moins cérébrales. Et le voyage en Algérie a permis ça. Elle n'y était pas retournée depuis très longtemps. Ça l'a mis dans un certain état de déstabilisation. Et
ce qui fait... a bougé sa parole.
Complètement, ça l'a déplacée. Alors, Bambi est quelqu'un du contrôle, vraiment de la maîtrise, donc pas complètement, mais elle était dans un état émotionnel très particulier qu'elle n'avait pas connu, je pense, depuis longtemps. Et du coup, l'entretien, le premier entretien qu'on fait à Alger, a été très particulier. Je sentais chez elle le désir de se laisser aller, en fait, de pouvoir dérouler ce récit qu'elle connaissait par cœur, qu'elle avait déjà formulé dans un livre, mais il y avait, elle le racontait là, sur cette terre où elle est née, dans cet hôtel où on a filmé donc cet entretien, où elle venait en tournée, où elle était venue en tournée avec d'autres travestis, et tout ça était tellement chargé, et le passé était là, affleuré en permanence, était aussi fort que le temps présent qu'on était en train de vivre. Et tout ça, je pense, a créé quelque chose de très particulier dans cette façon qu'elle a eu de me raconter sa vie, en fait. Et pour les invisibles, je dirais que je me suis rendu compte de ça après. C'est que au moment où je fais le film, j'ai autour à peu près de 40 ans, 40-45 ans, et ils en ont à peu près le double. Et je pense que je suis, dans cet échange, une sorte de fils possible pour eux. Parce que je suis pas quelqu'un de neutre. C'est une parole qui est dirigée. Quand il me parle, il parle pas à un micro, il me parle à moi. Et j'ai eu ce sentiment, en fait, d'avoir... oui, qu'ils m'ont parlé comme à un fils, si vous voulez, qu'ils n'ont pas. Et qu'ils avaient envie, qu'ils ressentaient ce besoin de me transmettre quelque chose. Alors, ils le transmettaient évidemment à la caméra. Il savait que toute cette parole était filmée et allait être redéployée ensuite à des milliers de gens. Mais le moment, en tout cas, où on a tourné, c'est à moi qui parlait. Et pour moi, ça a été très important parce que cette parole, elle vous transforme, elle pénètre votre conscience et elle vous fait réfléchir d'abord sur votre propre vie. Qu'est-ce que c'est que de conduire sa vie, justement, de se construire. Et donc ça a été des moments très forts. Je pense que ça a été pour eux, mais ça l'a été aussi pour moi.
C'est étonnant comme ce geste-là, il arrive aussi avec des photographies de personnes que vous ne connaissez pas, qui pour le coup ne vous ont pas été adressées, que vous avez trouvées puis gardées, et qui, par votre regard... et par la monstration que vous en faites là, par exemple, dans le cadre d'une expo à Beaubourg, mais c'était le cas aussi à Arles, par exemple, par votre regard, active un récit. Je pense à une série que je vais essayer de décrire brièvement, qui est une série de photos hyper déroutantes au départ, puisque ce sont des femmes, deux femmes, que l'on voit photographiées dans des positions quasiment similaires, dans des lieux similaires, et donc dans un effet de miroir au départ. Et on comprend pas trop, et puis le temps passe, et en fait on comprend que ce sont deux femmes qui s'aiment, et qui ont fait signe à travers le temps, qu'on fait signe par le médium de la photographie, de cet amour. Et de sorte que nous, bien des années après, je sais pas combien de temps, mais nous on reçoit le récit de cet amour à travers vous. Ça, vous pensez que c'est une magie qui se passe comment, Sébastien Lifshitz? Par quel miracle on se promène un soir, par hasard ou pas, à Beaubourg, parce qu'en plus la circulation est... Et on se voit raconter l'amour de deux femmes qui sont peut-être aimées en secret pendant des années.
Ça, c'est des petits miracles, en fait, quand vous chinez et vous cherchez donc des images. C'est-à-dire, vous ne savez jamais ce que vous allez trouver quand vous allez aux puces, dans des vide-greniers, que vous fouillez comme ça dans des cartons un peu pourris où il y a des images oubliées. Et moi, c'est des moments pour moi qui sont extrêmement chargés d'émotions parce que, d'abord, à chaque image, il y a une existence. C'est une vie. Et alors, à la fois, je l'ai choisi parfois uniquement pour leur beauté esthétique, mais parfois c'est juste un détail, une toute petite chose. Et puis à d'autres moments, vous avez un ensemble d'images. Et là, c'est autre chose qui est en jeu. C'est-à-dire que dans le cas de cette série dont vous parlez, en fait, j'ouvre un album et il y avait donc ces deux vieilles dames un peu bourgeoises. Les photos sont un peu quelconques, elles ont franchement rien de particulier. Mais j'ai tout de suite eu cette intuition qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se déroulait dans ces albums, enfin dans cet album. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à savoir quelle était la nature de la relation entre ces deux femmes. Je me disais, mais est-ce que ce sont deux sœurs, deux amies ou deux amantes? Et je demande au brocanteur s'il a d'autres albums. Il me dit, ah bah ça oui, et il m'en sort 10. Et donc, je regarde les autres albums et je comprends au bout d'un moment qu'il s'agit d'un couple bourgeois, lesbien, et je suis assez saisie quand même par cette manière très discrète qu'elles ont eu de mettre en scène cet amour.
Presque un dispositif d'art contemporain quand même, presque. Ouais.
Sauf que, et il y avait des pochettes où, avec des photos qui n'étaient pas dans les albums. J'achète le tout, je rentre à la maison et je continue d'enquêter dans les images. Et là, je me rends compte que dans les pochettes, un dispositif qui n'est pas du tout visible en fait en l'état. Qui est ce jeu dont vous parlez, c'est-à-dire qu'elles se photographient l'une l'autre comme si l'une était l'équivalent de l'autre, l'une à la place de l'autre, comme un jeu amoureux. Et elles font ça pendant 30 ans. Et comme un code entre elles, en fait, comme un jeu amoureux, quoi. Et je devine, à force de regarder les images, ce dispositif. Voilà. Et je suis un peu comme un archéologue, si vous voulez. C'est-à-dire que je déterre finalement des objets qui sont au départ très mystérieux, dont je n'ai pas même la maîtrise du langage. Et petit à petit, à force de les regarder, d'associer des images, on se rend compte, en fait, qu'il y a une histoire. Et qu'elle est lisible et souvent bouleversante. Il y a par exemple cet ensemble d'images que j'ai trouvé à Berlin, d'une femme. En fait, tout ça était au milieu d'une caisse avec des milliers d'autres images. Et c'est une femme qui se prend en photo dans les années 80, elle a 25 ans. Et puis elle fait ça pendant à peu près une vingtaine d'années. Et au bout d'un moment, son physique change radicalement, elle se met à maigrir. Et elle se transforme littéralement physiquement. Et la dernière image que j'ai d'elle, c'est elle a le visage complètement creusé, comme ça, elle regarde de manière presque un peu effarée l'objectif, et après il n'y a plus d'image. Et donc on comprend que elle est probablement tombée malade et que la mort est arrivée peu de temps après cette dernière photo. Et ça, si vous voulez, ce récit, au départ, il n'est pas visible dans le carton, c'est juste, je regarde des photos parmi des milliers d'autres, et puis... Mais ces images s'impriment en moi au fur et à mesure que je les regarde. Et puis au bout d'un moment, mais je les oublie pas. Et puis je finis par comprendre petit à petit parce que je les associe. En fait, je monte au moment même où je regarde des photos dans des cartons. Je me rends compte que je les accumule en moi, presque comme des rushs.
Et que vous faites un montage.
Et que je fais un montage. Et donc des fois, je suis obligé de revenir en fait sur des images que je n'aurais pas sélectionnées parce que je me dis, mais non, mais là en fait, il y a un récit, il se passe quelque chose. Et donc je me refais le carton. Donc ça veut dire des heures et des heures comme ça pour retrouver les photos parce que je comprends tout d'un coup en fait qu'il s'est passé quelque chose que j'avais pas tout de suite saisi.
Exactement comme on dit, on se refait le film, Sébastien Lifshitz. C'est pour ça que je disais que dans la manière dont vous montrez, vous organisez ces photos-là, en l'occurrence pour cette femme-là, c'est un mur qui porte une chronologie, mais comme c'est un mur, c'est aussi un aplat, donc on est aussi libre d'aller comme on veut d'un moment ou à un autre parce qu'elle se prend beaucoup on dirait selfie aujourd'hui, mais en portrait comme ça, inversé. Ça devient un film, ça devient quelque chose que vous racontez. Mais ce qui est intéressant dans la manière dont vous dites chercher et puis mémoriser et puis presque être à la recherche de l'image manquante de l'histoire que vous racontez par la suite, c'est un rapport de presque de fascination. Enfin, vous êtes imprimé comme on est fasciné d'une certaine manière par ces images-là.
Oui, je suis fasciné. Mais vous savez, ça me coûte aussi parce que, en fait, ces photos, elles ont un poids. C'est pas juste du papier sur lequel il y a eu des selles d'argent qui se sont imprimées ou imprimées du temps. C'est pas que ça une image. C'est pour moi, c'est aussi une archéologie. C'est quelque chose qui contient une vie et toutes ces vies, en fait, que je collecte, elles ont un poids et parfois le poids est vraiment lourd. Et il y a des moments où j'arrive plus à regarder des photos, où je m'interdis d'aller au puce. Je suis comme épuisé d'avoir comme accumulé autant de vie, autant de témoignages et d'en être, je dirais, une forme de gardien. Et il y a des moments véritablement où mentalement je suis épuisé.
Votre famille est trop grande. Moi je errais comme ça à un moment donné, étourdie dans l'exposition après l'avoir faite. Je me suis dit mais c'est vraiment comme s'il était gardien d'une tellement grande famille, quoi.
C'est comme un peuple de fantômes comme ça et qui est là en permanence. Et c'est pas que ça me hante si vous voulez, mais c'est ça m'accompagne. Et des fois, je dirais que ma vie est peut-être un peu trop peuplée et qu'on a juste besoin ou que j'ai juste besoin de m'isoler un peu et de faire le vide. Et c'est nécessaire comme pour ce... Oui, comme se vider, quoi. Et c'est comme un besoin vital. Et donc, il y a des moments où vraiment je m'absente, en fait, des images. C'est comme une petite trahison, mais j'en ai besoin, mais j'y reviens toujours, en fait. C'est-à-dire que je suis comme un drogué, si vous voulez. J'ai quand même besoin de ma dose. Et je peux jamais complètement m'absenter longtemps. Donc, j'y retourne. Incessamment. De façon, oui... obsessionnel, je retourne toujours à la recherche de ces vies, du passé, de ces témoignages.
Mais c'est aussi parce que vous le disiez, Sébastien Lifshitz, ça a à voir avec la mort, la disparition, les fantômes. Et il y a une série, en l'occurrence, qui est consacrée à des gens qui dorment et où presque tout est réuni. La petite mort du sommeil, la petite mort de la photo, la petite mort de l'être disparu qui est photographié. On écoute un extrait de Nuit Magnétique.
Aucun lit ne tourne grâce à mes yeux. Non. Aucun lit. Je pense qu'en plus, il est clair que je dois associer plus ou moins le lit, la position allongée, à la maladie et à la mort. Sur le fond des choses, je crois que c'est ça. Je dois donc avoir une peur instinctive de finir allongé. Oui, c'est sûr. Je comprends Clémenceau, homme politique que je déteste par ailleurs, qui voulait être enterré debout. Je trouve que c'est une idée géniale, parce qu'effectivement, pour le coup, il dormait pour de bon, et il restait debout. C'est une belle petite provocation. Si je pouvais dormir debout, ce serait bien.
The night I could speak to. A dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I
At last, enfin, la voix d'Etta James dont parlait Temps qui court sur France Culture. Et juste avant, c'était un extrait d'une nuit magnétique consacrée au sommeil. Il y a dû y en avoir beaucoup, mais diffusée sur France Culture en 1994. Cet homme qui s'appelle François Buot disait que aucun lit ne trouvait grâce à ses yeux et que finalement le rêve serait de mourir enterré, mourir en dormant debout. Et je disais que dans cette série de photographies qui s'appelle Les Dormeurs dans l'exposition L'Inventaire Infini, Sébastien Lipschitz, tout était là, quoi. Tout, la petite mort du sommeil, la peur de la petite mort du sommeil, l'abandon, ce qu'on dit être la petite mort de la photographie. Et moi, je regardais tous ces gens endormis et je me disais, mais c'est marrant, je pensais encore plus au geste. Je pensais encore plus à qu'est-ce que c'est que de faire une photo de quelqu'un et qu'est-ce que c'est que de faire une photo de quelqu'un qui est endormi.
Le sommeil, c'est très particulier en photographie parce que c'est une image volée, en fait. La personne ne sait pas qu'elle est photographiée. Donc... Et ça pose une véritable question sur...
Il y a vraiment eu un contrat avant, en se disant, tu vas t'endormir, je vais te photographier.
C'est important le contrat, parce qu'une photographie, c'est quelqu'un qui est derrière une caméra et quelqu'un qui est devant, et qui d'une certaine façon donne son accord, et permet qu'il y ait une rencontre, si vous voulez. Donc, alors qu'un dormeur, c'est quelqu'un qui n'a rien accordé, et on lui vole quelque chose. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de mal à... au puce ou dans des vide-greniers, à prendre les photos post-mortem. Il y a une sorte d'interdit pour moi à acheter ces images-là. C'est quelque chose de très étrange. Je me refuse toujours à les acheter, comme s'il y avait quelque chose d'impossible, d'irreprésentable. Le mort n'a pas donné son accord pour qu'on le photographie.
Quelle avait été la discussion, si on a eu une, avec Thérèse Claire à ce sujet-là?
Thérèse a voulu que je la filme jusqu'au bout. Et moi, j'ai pas voulu.
Jusqu'au bout, mort comprise.
Oui. Moi, j'ai pas voulu. J'ai estimé que c'était pas nécessaire d'abord au film. Et surtout, vis-à-vis de ses enfants, qui l'ont tellement partagé, leur mère. Parce qu'à partir du moment où Thérèse a divorcé, autour de ses 40 ans, ses enfants n'ont eu de cesse d'accepter, en fait, toute cette communauté qu'elle ramenait chez elle.
Ils décrivent bien, d'ailleurs, hein, ils sont présents dans le film, ils disent « de maman, elle est passée à Thérèse ». Et ouais. En fonction de notre ancienneté d'enfant, on a plus ou moins connu maman et on a beaucoup connu Thérèse.
D'ailleurs, Thérèse, c'était pas le jeu qui l'intéressait, c'était le « nous ». C'est-à-dire que tout était collectif, tout était politique, et donc la famille, c'était pas la famille au sens traditionnel du terme, c'était tous les gens qu'elle rencontrait, qui l'entouraient, et qui venait vraiment littéralement chez elle. Ils pouvaient se retrouver parfois à 10 à dormir chez elle. Et les enfants ont tellement appris à vivre en communauté, à partager, et à partager donc leur mère. Je me suis dit, bon, quand même, ce moment-là, ce dernier moment, cet adieu, il leur appartient. Et même si Thérèse m'avait demandé d'être là, voilà, j'ai pas voulu. C'était ma décision, je dirais. Je lui ai désobéi, mais je l'assume.
Et il y a dans cette série Les Dormeurs, pour revenir à l'exposition, quelque chose de très tendre. C'est-à-dire que j'ai dit finalement, tout est réuni, à la fois la petite mort de la photo, la petite mort du sommeil, etc. Mais en fait, c'est aussi, c'est très semblable à ce geste dont je parlais au départ, qui est un regard penché sur quelqu'un qui dort, un enfant qui dort, une femme ou un homme aimé, ou quelqu'un dans un parc.
Ce qui est très beau dans l'image amateur, particulièrement dans la photographie de famille, c'est que ce qui motive l'image, c'est souvent l'amour, c'est souvent le désir. C'est pas l'argent, à la différence de la publicité, où on essaye de vous vendre quelque chose. Donc le geste qui le motive, c'est véritablement cette question justement de l'argent. Mais alors que finalement, dans l'intime, ce qui est beau, c'est d'essayer de deviner ce qu'a voulu photographier le photographeur et pourquoi il a voulu faire une image, pourquoi il a voulu garder quelque chose de quelqu'un, d'un lieu, d'un objet, d'une personne, d'un bout de corps. Il y a toujours une question derrière une image et on n'a pas la réponse, mais au moins on peut projeter tellement de choses. Moi qui suis cinéaste et qui adore inventer des histoires, évidemment c'est un jeu, je dirais, auquel je m'adonne en permanence. Et ces images m'inspirent énormément d'idées de scènes ou de films. Et puis voilà, il y a aussi cette dimension archéologique dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que une image, c'est une trace du temps, c'est une trace d'une vie. Littéralement, si vous voulez, la lumière du moment photographié, elle est emprisonnée sur ce papier. Elle est là. Ce temps passé, il existe toujours, vous le touchez physiquement. Et ça me bouleverse, en fait. De la même manière, quand j'étais petit, que je pouvais me promener, je me souviens, au château de Versailles, et que je pouvais toucher un mur, une tenture de l'époque, j'avais l'impression que je communiais avec, je sais pas, la cour du Roi Soleil, et tout d'un coup, comme si j'étais comme... je voyageais dans le temps, si vous voulez, et que je puisse toucher tout ce monde, toute cette époque qu'on nous racontait à l'école. Et tout d'un coup, je faisais plus qu'un, si vous voulez, avec le passé et le présent.
Donc aussi l'idée ou le fantasme, l'illusion, ou alors la croyance que c'est une manière très, très physique de faire arriver le passé dans le présent.
Bah, une photo, vous touchez véritablement un temps, le passé, elle crée une sorte de continuum, je trouve. Et c'est ça que je trouve, oui, bouleversant. Il y a des images, par exemple, que je trouve qui sont complètement bouffées par l'humidité et où les visages commencent à s'effacer, la texture argentique de l'image est en décomposition. Et ça aussi, je trouve ça assez bouleversant.
Il y a toute une section d'ailleurs de l'exposition qui est consacrée à ces ratages ou à la manière dont le temps attaque.
Et fait disparaître l'image.
C'est un horizon vers lequel vous tendez ou pas du tout? Ou le drogué à l'image voudra toujours sa dose, Sébastien Lipschitz?
Je dirais que ça fait partie de, en tout cas, des sujets qui m'intéressent. Justement, la permanence finalement des choses, des traces. Et l'effacement pour moi est quelque chose d'insupportable. J'ai l'impression qu'il faut toujours veiller à comme ramener les morts dans le vivant.
Merci beaucoup, Sébastien Lipschitz. Toute cette rétrospective est visible au Centre Pompidou à Paris jusqu'au 11 novembre. Donc il y a tout un programme de films. On peut aussi se rendre à cette exposition et se procurer le catalogue, l'inventaire infini. On se quitte avec Bambi.
Aux Champs-Élysées, mon ami m'y déposait tous les matins. Et je ne sais pas comment il faisait pour savoir ça. Il me disait, il y a des flics. Mais des flics qui passaient en fumant leurs cigarettes comme ça. Il les reconnaissait. Comment faisait-il pour les reconnaître? Je ne sais pas. Il n'était pas question qu'il me dépose. Et tout d'un coup, il regardait si à 50 mètres, il n'y avait pas de flics, comme il disait. Et il me déposait et je rentrais vite au carrousel. Mais c'était interdit d'arriver au carrousel avec une jupe. Il aurait fallu qu'il y ait un pantalon et des chaussures plates. Ce que, bien entendu, aucune d'entre nous n'acceptait. Et moi comme les autres, parce que vraiment il y a des choses qui ne passait pas. J'accepte beaucoup de choses, je veux bien ne pas choquer la société, mais je veux qu'on me laisse vivre. Et ça, je l'ai eu en moi, toujours, et on a fait cette résistance-là. C'est cette résistance qui a vaincu, en quelque sorte, la résistance de la société, les résistances de la société.
Il vous faudrait une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, ah oui. Mais pas n'importe quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme, ah non. Je sais que les filles intéressées sûrement ne manquent pas. C'est une épouse qu'il vous faudrait pour balayer tout ça. Prenez donc une femme, une seule, mais qui remplisse enfin votre maison de joie. Quatre autres célibataires qui vivent sur la terre sans l'amour d'une femme. Allons, prenez donc une femme, vous ne le regretterez pas. Je pense qu'après ces quelques conseils, messieurs, il ne reste plus beaucoup de célibataires parmi vous. Monsieur, dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire?
Oui.
Vous êtes célibataire? Et quel est votre genre de femme, monsieur? Oh, monsieur, ne vous fatiguez pas, j'ai compris. On vous engagera avec nous. Voyons, monsieur, dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire?
Oui.
Vous êtes célibataire? Et quel est votre genre de femme, monsieur? Que vous êtes gentil, monsieur, naturellement, monsieur. Je vous comprends, j'ai beaucoup d'avantages, mais j'ai un petit inconvénient.
Prenez. À la prise de son ce soir, c'était Marie-Claire Ouma Badi. À la réalisation, c'était Charlotte Roux. Un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui courent, Jeanne Aléos, Romain de Bête de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. Par les temps qui courent, c'est aussi une page sur le site de franceculture.fr et un podcast pour la réécoute où vous voulez, quand vous voulez, via l'appli qu'il vous plaira. Très belle soirée à vous sur France Culture.
Une femme unique, une femme que vous pourrez garder toujours à la maison. Prenez une décision, il y a trop de vieux garçons. Mais s'il y a pour vous une femme qui saura vous aimer comme il faudra et qui va tomber dans vos bras, car il vous faut une femme, une femme comme moi.